Alors, je vous remercie d'avoir bien voulu m'inviter, monsieur l'abbé. Et je remercie d'une manière générale, d'ailleurs, la fraternité Saint-Pédis. Je suis frappé du rôle qu'elle joue depuis quelques années dans la vie intellectuelle, en organisant des colloques, des séminaires, des conférences un peu partout en France. Et je vous assure que c'est très précieux dans le désert actuel, dans le désert où nous sommes. Alors je dois vous parler, dans le cadre du programme que M. l'abbé Simoulin a établi, je dois vous parler de la révocation de l'édit de Nantes. Et je commence tout de suite en vous rappelant la date, le 18 octobre 1685, par l'édit de Fontainebleau. La cour, en effet, était à Fontainebleau. À chaque automne, la cour de Versailles se transportait à Fontainebleau. Donc le 18 octobre 1685, le roi Louis XIV révoque l'édit de Nantes. C'était il y a donc un peu plus de 3 siècles. Très applaudi sur le moment, par toute la France. La décision du grand roi a été ensuite, et est encore aujourd'hui, presque toujours critiquée. Les historiens de droite, dits de droite, par exemple Bainville, Gaxotte, y ont vu une faute politique. Et les historiens du siècle des Lumières, Voltaire, par exemple, les historiens romantiques, Michelet, par exemple, et les historiens républicains, Lavis, par exemple, font de la révocation l'une des preuves, avec l'Inquisition et les croisades, du fanatisme de l'Église romaine et du despotisme de la monarchie française. Alors, quant à nous, que devons-nous en penser? Je crois qu'il faut d'abord, si nous voulons comprendre quelque chose à cette affaire, c'est rappeler ce qu'était l'édit de Nantes, promulgué par le roi Henri IV en 1598. C'était un édit de tolérance. Les protestants obtenaient le droit, c'était un nom que l'on donnait à ces édits promulgués par les rois de France en faveur des protestants pendant les guerres de religion. Et Henri IV a donc bien promulgué un édit de tolérance. Les protestants obtenaient le droit de célébrer leur culte, de posséder des temples, d'avoir des ministres, des pasteurs, des écoles, de tenir des assemblées religieuses et de gérer leurs propres églises. Ces assemblées religieuses s'appelaient des colloques et des synodes. Et de plus, les protestants français, ils étaient 1 200 000 ou 1 300 000 à cette époque, en 1598, ce qui était quand même important. Ils obtenaient des droits civiques importants, ils étaient reconnus comme citoyens à part entière et pouvaient accéder à tous les emplois. Il y avait quelques restrictions. Le culte n'était autorisé que dans 2 villes par bailliage. Or, il y avait en France 130 bailliages à peu près. Et dans les fiefs des seigneurs hauts justiciers, c'est-à-dire des seigneurs qui avaient droit de haute justice, faisant profession de la religion protestante. Le culte était par contre, en revanche, interdit à Paris, dans la capitale. On ne pouvait pas accepter que le roi très chrétien, le roi très catholique, puisse être en quelque sorte contaminé par le culte protestant. Il était interdit à Paris, dans les villes épiscopales, dans les villes des évêques et aux armées. C'était donc une liberté réelle, assez large, mais mesurée. Alors, outre l'édit, en dehors de l'édit lui-même, Henri IV avait signé des articles secrets, des brevets qui conféraient aux protestants des privilèges politiques très importants et entre autres le droit de tenir des assemblées politiques, qui n'étaient pas les mêmes que les assemblées ecclésiastiques, et d'avoir garnison dans certaines places dites de sûreté. Montauban et La Rochelle étaient les principales de ces places de sûreté. Là, il y avait des soldats protestants, il y avait des garnisons protestantes. Le protestantisme constituait de ce fait un État dans l'État. Et les protestants en avaient profité, bien sûr, pour se révolter plusieurs fois contre l'autorité royale. Et ces privilèges avaient été supprimés après une révolte particulièrement vive, celle du duc de Rohan, Ces privilèges avaient été supprimés par le roi Louis XIII par l'édit de grâce d'Alès en 1629. Cependant, à cette occasion, la monarchie n'avait pas touché la liberté religieuse, qu'elle avait tenu à garantir à nouveau par l'édit de grâce d'Alès, et qui, même après cette révolte du duc de Rohan, était demeurée entière et intacte. La révocation de 1685 n'en apparaît donc que plus étonnante. Et c'est pourtant pas une lubie de Louis XIV. Ce n'est pas une lubie de Louis XIV. C'est certainement une rupture, la révocation, mais c'est aussi une continuité. C'est une rupture avec la tolérance civile observée par Henri IV et Louis XIII, qui autorisaient le culte dans leur royaume, le culte protestant. Mais c'est aussi une continuité, car l'édit de révocation s'inscrit dans la ligne d'une politique constante de la monarchie française depuis la fin des guerres de religion, qui est celle de la réunion des protestants à l'Église catholique. Unissant ses efforts à ceux des évêques et des ordres religieux, le pouvoir royal, depuis un siècle, avait essayé tous les moyens de réunir les protestants, de les réunir à l'Église romaine. Alors, on avait employé la controverse, on avait organisé des conférences entre les pasteurs et les prêtres catholiques, on avait mobilisé des missionnaires, on avait envoyé des capucins. Les capucins, ce sont les pionniers de la contre-réforme, de la réforme catholique. On les avait envoyés dans les régions particulièrement difficiles, en Dauphiné, en Poitou. On avait envoyé des jésuites dans le Velay et en Vivarais. Après 1650, on avait commencé à préparer des projets de réunion, c'est ainsi qu'on les appelait, des accommodements dans lesquels on s'efforçait de réduire au maximum les divergences doctrinales. Les plus grands esprits du siècle, incités à cela par le roi, avaient travaillé à cette réunion. Richelieu, le cardinal de Richelieu, a lui-même écrit deux traités de controverse, dans lequel il rassemblait les arguments pour convertir les protestants, les ramener à l'Église romaine. Bossuet également, Bossuet a travaillé pendant plusieurs années avec un pasteur de l'Église de Metz, le pasteur Ferry, et il avait abouti à un projet de réunion tout à fait acceptable par les catholiques, et qui aurait pu réussir si certains pasteurs influents ne s'y étaient opposés, en particulier le pasteur Claude. En 1666, même, le roi Louis XIV, le jeune roi, avait constitué un conseil officieux, mi-parti, c'est-à-dire composé pour moitié de protestants et de catholiques. Parmi les protestants, il y avait Turenne, le grand Turenne, qui se convertira 2 ans plus tard, pour travailler à la réunion. Seulement déjà, le roi s'impatientait. Il n'était pas très patient de nature. Et déjà, il s'impatientait parce qu'il trouvait que la réunion à laquelle il songeait depuis le début de son gouvernement personnel, il en parle dans ses mémoires de 1661 et 1662, il trouvait que ça n'allait pas assez vite. Et dès 1661, on le voit bien si on lit ses mémoires, il avait envisagé un autre moyen, plus expéditif, à son avis, de réunir les protestants et qui consistait à les forcer de se convertir en réduisant leur liberté religieuse en même temps que leurs droits civils. Et à partir de 1669, ayant pris de l'assurance, que fait-il? Eh bien, il applique systématiquement cette politique. Et de fait, les résultats sont bons. Ce que ni la controverse, ni l'apostolat des missionnaires, ni les accommodements, ni les projets de réunion n'avaient obtenu, la persécution, car il faut bien appeler les choses par leur nom, on persécute les protestants puisqu'on restreint leur liberté de culte, on restreint leurs droits civiques, la persécution le réussit, la persécution l'obtient. Les protestants se convertissent, et même ils se convertissent en masse. Alors, voyant cela, le roi n'hésite plus. Il supprime les derniers vestiges de la tolérance, il révoque l'édit de Nantes, telle est l'histoire des origines de la révocation, qui nous apparaît donc non pas comme une mesure contradictoire, mais comme une mesure différente, c'est-à-dire comme une autre manière de réunir les protestants. On peut dire que la révocation est la conclusion logique et nécessaire d'une persécution qui dure depuis une vingtaine d'années. 1685, oui, qui remonte aux années 1665-1666. Persécution qui a peu à peu réduit la liberté religieuse jusqu'à la réduire à presque rien, selon un plan dit de retranchement ou de rétrécissement. Le roi Louis XIV employait ces mots et ses ministres aussi. Alors comment procédait-on? Eh bien, on procédait par des vérifications. Il y a trois vérifications, 1661, 1669 et 1679. Et que fait-on lors de ces vérifications? Eh bien, on vérifie que les églises protestantes, on essaie de savoir si les églises protestantes ont tous les titres pour exister, tous les titres légaux, si elles ont bien le droit d'exister. Et on s'aperçoit presque toujours qu'elles n'ont pas le droit, que tel temple a été construit alors qu'on n'avait pas le droit de le construire. Il a été construit après telle date, alors qu'on n'aurait pas dû construire après cette date. En même temps que ces vérifications, on ajoute des limitations, des interdits. Par exemple, on exige que soient détruits tous les temples où seraient entrés des relapses, c'est-à-dire des convertis au catholicisme, retournés au protestantisme. Enfin, à force de vérifier, de contrôler, de limiter, on finit par faire disparaître presque toutes les églises protestantes et tous les temples. Jugez-en, en 1685, il y avait dans le royaume 173 temples, alors qu'en 1610, à la mort de Henri IV, il y en avait 760. Vous voyez, ce travail de vérification a été très bien fait, et on a pu, de cette manière, démolir, disons, les trois quarts des temples. Le premier démoli a été le temple de Saint-Bosile, en Languedoc, qui a été démoli en 1662. Certaines régions qui avaient de très nombreux temples, la région autour de Montauban, qui était la terre sainte des protestants, n'avait plus un seul temple en 1685. Le Poitou non plus n'avait plus un seul temple en 1685. Alors on peut dire que dans ces conditions, la révocation ne révoque plus grand-chose. Est-ce qu'on peut révoquer ce qui n'existe plus? On se demande s'il était bien nécessaire de révoquer. Était-il bien nécessaire de faire cet édit de Fontainebleau, qui, au fond, était déjà accompli dans les faits? Est-ce qu'on n'aurait pas pu faire l'économie d'une révocation, acte spectaculaire, d'un effet très fâcheux sur les puissances étrangères et sur les historiens? Sur les historiens libéraux, romantiques, révolutionnaires, c'est quand même un argument que l'on brandit toujours, la révocation... que l'on brandit toujours contre l'Église romaine et contre la monarchie française. Donc, est-ce qu'on n'aurait pas pu faire l'économie d'une révocation? Eh bien non, on ne pouvait pas faire l'économie. En 1685, c'était beaucoup trop tard. C'était fini. La réponse est non. En 1685, Louis XIV n'a plus le choix. Il est obligé de révoquer. Pourquoi? Pour cette raison très simple, qu'il faut donner aux protestants français un état civil. Ceux-ci, en vertu de l'édit de Nantes, faisaient enregistrer dans leur temple, par leur pasteur, leur baptême, leur mariage, leur sépulture. Or, la plupart du temps maintenant, la plupart d'entre eux, se trouvent privés d'église et de pasteur. Ils sont donc dans l'incapacité de faire enregistrer leurs actes. Leur naissance, leur mariage et leur décès n'ont plus de ce fait, si l'on peut dire, d'existence légale. Ils sont donc dans une situation impensable légalement. Alors de deux choses l'une, ou bien on leur rend leur temple et leur ministre, ce qui ne peut pas se faire évidemment, puisque on travaille depuis 20 ans à les supprimer, ou bien alors on les oblige à faire enregistrer leurs actes de baptême, mariage et sépulture dans les paroisses catholiques par des curés seulement pour ça, il faut un édit nouveau. Il faut donc révoquer l'édit de Nantes et le remplacer par un autre, et cet autre, c'est l'édit de Fontainebleau. D'octobre 1685. La révocation n'est pas seulement une mesure logique, à la suite d'une persécution qui dure depuis 20 ans, mais c'est aussi une mesure absolument nécessaire. Alors, en quoi consiste-t-elle? Il est temps que je vous le dise. L'édit de Nantes était très long, très compliqué, et l'édit de Fontainebleau est très simple et très court. Il a été rédigé par le chancelier Le Tellier, un de ses ministres de Louis XIV, qui travaillait vraiment dans le style concis. Il se réduit en effet à 12 articles. 1, 2, 3 interdisent l'exercice du culte protestant. 4, 5, 6 concernent les pasteurs qui ont ordre de sortir du royaume dans les 15 jours sous peine de galère. Les pasteurs convertis au catholicisme bénéficieront de quelques exemptions fiscales et de dispenses d'études pour devenir avocats. Article 7, les écoles protestantes sont supprimées. Les articles 8 à 12 intéressent le commun des fidèles protestants. Ils doivent, sous peine d'amende, faire baptiser leurs enfants dans la religion catholique et les élever ensuite dans cette religion. Les hommes qui sortiront du royaume, interdiction de sortir du royaume, seuls les pasteurs doivent sortir, mais les fidèles ne doivent pas sortir, interdiction de sortir du royaume pour les hommes sous peine de galère et pour les femmes sous peine de prison. Les biens des émigrés, ceux qui seront sortis sans permission, sont confisqués. Et enfin, l'article 12 conserve aux fidèles, aux sujets de la religion prétendue réformée, c'est le nom qui lui est donné, la RPR, la liberté de conscience. Pourront les 10 sujets de la religion prétendue réformée demeurer dans les villes et lieux de notre royaume et y continuer leur commerce et y jouir de leurs biens sans pouvoir être troublé ni empêché sous prétexte de la dite religion. Alors, certains historiens ont dit que ce dernier article était dénué de sens. Mais ce n'est pas exact. Les protestants sont libres de le rester. Sans culte, évidemment, sans pasteur. Mais ils sont, enfin, théoriquement, libres de rester protestants. Et surtout, remarquez-le bien, leur droit de propriété est garanti, sauf en cas d'émigration. Ils ne sont pas systématiquement expropriés comme le seront par exemple les juifs de l'Allemagne nationale socialiste. Alors cette mesure a reçu tout de suite de très grands applaudissements, a été saluée par de très grands applaudissements, cette révocation. Le monde politique administratif, les évêques, le clergé tout entier, les écrivains français, et Dieu sait s'il y a beaucoup d'écrivains et de grands écrivains dans la France de l'époque, ce furent des félicitations unanimes. On n'avait jamais rien vu de plus beau que cette révocation. Je vous donne quelques échantillons. Bossuet, quand il félicite, ce n'est pas rien. Et puis c'est dans un très beau style. Dans l'oraison funèbre du chancelier Michel Le Tellier, prononcée le 26 janvier 1686, à l'église Saint-Gervais à Paris. Il faut savoir que le chancelier Le Tellier avait rédigé le texte de l'édit. Bossuet célèbre l'événement au nom de l'épiscopat français tout entier. Touchés de tant de merveilles, et penchons nos cœurs sur la piété de Louis. Louis, c'est Louis XIV. Poussons jusqu'au ciel nos acclamations, et disons à ce nouveau Constantin, à ce nouveau Théodose, à ce nouveau Marcian, à ce nouveau Charlemagne, ce que les 630 pères dirent autrefois dans le concile de Chalcédoine, vous avez affermi la foi, vous avez exterminé les hérétiques. Si je quitte maintenant le clergé et j'entre dans le monde laïque, je peux prendre comme bon exemple Madame de Sévigné. Madame de Sévigné qui écrit à sa fille, Madame de Grignon, vous avez su sans doute ma bonne lady, par lequel le roi révoque celui de Nantes, rien n'est si beau que tout ce qu'il contient, et jamais aucun roi n'a fait et ne fera rien de plus mémorable. Je dirai en passant que parmi les laudateurs de l'édit de Nantes, il y a quelqu'un qui va jouer un grand rôle au siècle suivant à la tête de la secte philosophique, c'est Fontenelle. Fontenelle, ancien élève des jésuites, mais plus tard libertin, agnostique, philosophe, est l'auteur de vers qui célèbrent la révocation de l'édit de Nantes, et ces vers furent lus dans une fête donnée en l'honneur de ce grand événement par les jésuites de Rouen dans leur collège. Le pasteur Eugène Bercier, qui écrivait au sujet de la révocation il y a un siècle, s'étonnait, je cite, « de trouver l'éloge de la révocation sous la plume d'un écrivain dans lequel le XVIIIe siècle devait reconnaître l'un de ses coryphées ». Moi, je suis moins étonné, parce que Fontenelle a toujours, comme la plupart des philosophes des Lumières, été partisan d'un pouvoir autoritaire, un pouvoir qui règle la religion, un pouvoir comme celui que mettra en place, un peu partout en Europe, le despotisme éclairé, et que mettra en place, en France, la révolution dite française. Voilà ce qu'on peut dire de l'accueil qui a été fait à la révocation. Alors maintenant, il faut enfin nous prononcer. Enfin, qu'est-ce que c'est? Est-ce que cet acte est un acte légitime? Est-ce que c'est une faute? Alors je dirais d'abord que c'est un acte légitime. La révocation est légitime. Elle est légitime d'abord du point de vue du droit public du Royaume de France. Selon la constitution non écrite de la monarchie française, le roi n'est pas seulement un prince catholique, et ne pouvant pas ne pas l'être, mais il est encore le protecteur de l'Église, et vous savez que lors du sacre de Reims, en prêtant le grand serment, dit serment du royaume, le roi jure de défendre les privilèges de l'Église et d'exterminer les hérétiques. Exterminare, ce qui ne veut pas dire tuer, mais chasser du royaume. Donc des deux édits, celui de Nantes et celui de Fontainebleau, l'injuste n'est pas le second, mais le premier. C'est Henri IV qui a enfreint les lois du royaume, et c'est Louis XIV qui les applique. Ce faisant, d'ailleurs, il crée une situation qui est celle de plusieurs pays d'Europe au XVIIe siècle, où, selon le principe posé en 1555 par la paix d'Augsbourg, la religion du prince doit être celle des sujets, cuius regio, eius religio. En Espagne et en Italie, au XVIIe siècle, la seule religion reconnue, autorisée, est la catholique. En Angleterre, c'est la religion dite anglicane. Le Bill du Test oblige tout officier du roi à répudier le dogme de la transsubstantiation et à reconnaître la suprématie religieuse du souverain. Voilà donc pour le droit public. Mais on peut dire que la révocation est également en accord avec la théologie morale catholique. En tout cas, n'est pas en contradiction avec la théologie morale catholique. En effet, cette théologie n'a jamais dit que dans un État chrétien, tous les cultes devaient être obligatoirement tolérés. Elle n'a jamais considéré non plus qu'une confession non catholique avait, dans tous les cas, droit à la tolérance civile d'un État catholique. Et vous savez que de toute façon, la théologie morale définit la tolérance comme une concession imposée par la prudence, mais non comme un droit. Vous savez tout cela. Enfin, je pense à la définition du dictionnaire de Littré, qui me paraît bonne, et qui dit à condescendance, qui dit à tolérance, condescendance qui permet de supporter ce que l'on blâme. C'est une jolie définition. En tout cas, ce n'est pas un droit pour la théologie morale. On peut également justifier la révocation, dire qu'elle est légitime, sans blesser la vérité historique, en rappelant qu'elle est un acte de légitime défense du catholicisme contre certaines agressions protestantes. Alors, je sais bien que les historiens disent toujours, sous le régime de l'édit de Nantes, tout allait très bien, les catholiques et les protestants s'entendaient très bien. Madame Labrousse, qui est une grande historienne du protestantisme, parle de coexistence pacifique au niveau populaire. C'est vrai. En tout cas, enfin, ce n'est pas faux. Tenez à Lyon, par exemple. Nous avons plusieurs exemples de bonnes relations entre les protestants et les catholiques sous le régime de l'édit de Nantes, c'est-à-dire avant 1685. Par exemple, Madame Odile Martin, qui a fait un livre sur la conversion des protestants à Lyon, nous rapporte ce fait. Les notaires lyonnais catholiques acceptaient bien volontiers dans les actes, dans les testaments des protestants qu'ils inscrivaient sur leurs minutes, de noter les formules religieuses protestantes. Par exemple, Jésus-Christ seul médiateur. On connaît aussi les bibliothèques de plusieurs grands bibliophiles lyonnais au XVIIe siècle. Et l'un d'eux, Henri Gras, qui avait une très belle bibliothèque, était protestant, mais dans cette bibliothèque, il y a beaucoup d'ouvrages catholiques, d'ouvrages de controverse, d'apologétique, qui montrent chez le propriétaire de cette bibliothèque une grande curiosité à l'égard du monde catholique. Bon, donc il y a du vrai dans la formule de Madame Labrousse. Mais je crois qu'il ne faut pas oublier non plus les injures faites par les protestants aux prêtres et au culte catholique. Par exemple, les irrévérences commises envers le Saint-Sacrement. Elles sont nombreuses au XVIIe siècle. La Compagnie du Saint-Sacrement était une confrérie qui s'était fondée au début du siècle pour obtenir de la part des pouvoirs publics des mesures de défense du culte et de protection des prêtres. Et les annales de la Compagnie du Saint-Sacrement relèvent beaucoup d'irrévérences commises envers le Saint-Sacrement, soit dans les églises elles-mêmes, soit sur le passage du Saint-Sacrement dans les rues, sur les places, au moment où on portait le Saint-Viaticum malade. Les Huguenots, puisque c'est ainsi qu'on les appelait, se moquaient très souvent des images saintes. Lorsqu'ils passaient devant des croix, ils enfonçaient leurs chapeaux. Enfin, quand ils étaient en majorité dans une ville, ils en profitaient souvent pour interdire aux catholiques l'accès aux métiers dont ils détenaient les maîtrises. Quand ils occupaient les charges municipales, ils surchargeaient les catholiques dans la répartition des impôts, dans le logement des gens de guerre. Mais c'était surtout les abjurations qui déclenchaient la fureur des protestants. Et je l'ai constaté en lisant les annales de la ville de Montauban. Montauban était une ancienne place de sûreté protestante. Il y avait dans cette ville une population protestante qui représentait à peu près 55 à 60% de la population totale. En 1656, les protestants se soulèvent, font une sédition très violente, dont le motif était le suivant. Une femme du peuple, pour épouser son séducteur protestant, se convertit au protestantisme. Peu de temps après son mariage, elle tombe malade, et à ce moment-là, elle revient au catholicisme, et elle demande d'être enterrée dans un cimetière catholique, d'être enterrée, enfin que ses obsèques soient célébrées à l'église. Ce qu'apprenant, au moment de sa mort, les calvinistes de la ville, les protestants de la ville, entrent en fureur, ils ferment leurs boutiques, ils prennent les armes et remplissent la ville de tumulte, nous dit une relation. Ils enlèvent le cadavre, insultent l'évêque et les consuls catholiques. Et l'année suivante, nouvelle révolte. Cette fois, les révoltés enlèvent le fils d'un pasteur et le séquestrent. Vous voyez, les séquestrations, ce n'est pas uniquement aujourd'hui. Et le séquestrent pour le punir de s'être converti au catholicisme. L'évêque est pendu en effigie. Les jésuites du collège sont outragés. Les consuls catholiques, c'est-à-dire les magistrats municipaux, se réfugient au palais de l'évêque où ils sont assiégés une nuit entière. Et pour mettre fin à cette révolte et rétablir le bon droit, il ne faut pas moins de 5000 hommes de troupes. C'est une affaire très grave et ce n'est pas la seule. Alors on ne voit pas pourquoi de tels incidents devraient être passés sous silence. Il faut les verser au dossier. Dans l'histoire de la révocation, les intolérants ne sont pas toujours les catholiques. La révocation est donc légitime dans son principe. Est-elle pour autant pleinement justifiée? Je crois qu'on peut en douter. C'est en effet, d'une certaine manière, un acte arbitraire. Pour deux raisons. Première injustice, on oblige les protestants à rester dans le royaume tout en les privant de leur culte. Et deuxième injustice, la raison de la révocation est une mauvaise raison. On dit qu'il n'y a plus de protestants, alors que les protestants, en réalité, ne sont pas convertis. Première raison, première injustice, on oblige les protestants à rester dans le royaume, tout en les privant de leur culte. Une telle contrainte ne se justifie pas. En outre, la constitution du royaume ne l'exige pas. Le serment du roi ne l'oblige pas. l'oblige plus exactement à bannir les hérétiques et non pas à les priver de leur culte. Madame Labrousse dit « Les protestants auraient jugé la révocation légitime si elle leur avait donné le droit d'émigrer. » Et les puissances étrangères protestantes l'auraient jugé ainsi aussi. Donc le roi, là, a fait une faute, il a commis un acte arbitraire, il supprimait le culte, alors il fallait bannir les protestants pour leur permettre de suivre leur culte ailleurs. Ce n'est pas tout. La raison officielle de la révocation est mauvaise. En effet, cette raison, c'est la conversion prétendue des protestants au catholicisme. Le roi dit « Je révoque parce qu'il n'y a plus de protestants ». Voici ce que dit l'édit de Fontainebleau. « Nous voyons présentement, avec la juste reconnaissance que nous devons à Dieu, que nos soins ont eu la fin que nous nous sommes proposés, puisque les meilleurs et la plus grande partie de nos sujets de la dite religion prétendue réformée ont embrassé la religion catholique, et que les meilleurs, je répète, les meilleurs et la plus grande partie de nos sujets ont embrassé la religion catholique. » En quantité, le roi a raison. Oui. Depuis 1681, les abjurations sont innombrables. Elles dépassent tous les pronostics, depuis 4 ans. 30 000 en Poitou, presque tous les protestants du Béarn, la majorité de ceux du Languedoc, du Quercy, du pays de Castres, 50 000 en Dauphiné. Tous les mois, la cour de Versailles reçoit de ces communiqués de conversion qui sonnent comme des bulletins de victoire. Et le 15 octobre 1685, 3 jours avant la révocation, le nonce du pape à Paris, le nonce Ranuzzi, écrit au cardinal secrétaire d'État à Rome que 400 000 protestants viennent de se convertir. 400 000. Le chiffre est énorme, mais il est vraisemblable. Il est confirmé par Madame Elisabeth Labrousse. En quantité, donc, le roi de France a raison. La plus grande partie de nos sujets de la religion protestante se sont convertis. Seulement sur la réalité des conversions, il a tort. Il n'est pas dans le vrai. Ou bien il se trompe sincèrement, ou il fait semblant d'y croire. Car le plus grand nombre de ces conversions ne sont pas des vraies conversions. Tous ces protestants qui vont abjurer en masse ne sont pas en réalité des convertis. Ces conversions ont été arrachées par la contrainte. D'abord, depuis 1661, par une série d'arrêts, le Conseil du roi retranchait un par un tous les droits civiques des protestants, leur interdisant l'accès à un grand nombre d'emplois, ceux de la fonction publique, comme nous dirions, notaires, greffiers, procureurs, huissiers, receveurs des impôts, ceux des professions que nous disons libérales, apothicaires, chirurgiens, avocats, médecins, sages-femmes, ceux de plusieurs métiers, épiciers, orfèvres, drapiers, lingères. Le Conseil du roi supprimait également les écoles protestantes, les académies, les collèges, interdisait les écoles élémentaires. Et surtout, dans le même temps, violence intolérable et inexcusable. Le Conseil du roi extorquait les conversions des enfants contre la volonté de leurs parents. En 1664, le Conseil du roi permettait que les garçons à partir de 14 ans et les filles à partir de 12 ans abjurent le protestantisme sans l'autorisation de leurs parents. Et en 1681, ces âges seront abaissés à 7 ans pour les garçons et pour les filles. On organise, après cette date, à partir de 1664, des enlèvements d'enfants. L'autorité administrative enlève les enfants aux parents protestants pour les confier à des catholiques. Et ces raptes d'enfants sont légitimés, légalisés par l'édit de janvier 1686. Toutes ces dispositions blessent gravement le droit naturel, l'autorité parentale. Ce sont des mesures sans précédent dans l'histoire de la France. Telle est la persécution par la loi. Telle est l'extrémité jusqu'où elle porte. C'est ainsi que les protestants ont été brisés. Pour obtenir leur conversion massive, il ne restait plus qu'à leur envoyer les soldats, les dragons. Ce furent les fameuses dragonnades. Les dragonnades ne sont que l'application à des fins persécutrices et donc extraordinaires d'une charge ordinaire et normale qui est le logement des gens de guerre. En ce temps-là, il n'y avait pas de caserne et les soldats logeaient chez l'habitant. C'était un impôt. Alors, pour en faire un moyen de coercition, de contrainte, il suffisait de réserver le logement à la catégorie de sujets que l'on voulait contraindre, persécuter, d'en prolonger la durée et de donner à loger plus de soldats que cette catégorie n'en pouvait supporter. Voilà, c'était très simple. Le pouvoir royal en avait toujours usé ainsi avec les pays rebelles. Sous Louis XIV, par exemple, après la révolte des Bonnets Rouges en Bretagne, une révolte paysanne, on a imposé aux rebelles de loger pendant très longtemps les gens de guerre. Alors on a appliqué tout simplement le procédé aux protestants. Pourquoi les dragonnades? Eh bien parce que les soldats qu'on a logés au début, c'était des dragons. Les dragons, c'est une troupe que l'on voit apparaître pendant la guerre de 30 ans. Les dragons, ce sont des soldats qui combattent à pied et à cheval. Ce sont à la fois des cavaliers et des fantassins. Et les dragons, les unités de dragons, étaient très nombreuses dans l'armée royale à cette époque. Voilà les raisons de l'emploi de ce terme. Alors on fait un premier essai en 1659 avec les protestants de Montauban. Mais la première grande dragonnade est celle de Poitou en 1681. Et l'auteur en est l'intendant de cette province, le préfet, si vous voulez, de cette province, qui s'appelait Marillac. Il demande des dragons et les loge dans le Poitou. Deuxième dragonnade en 1683 en Vivarais. Et troisième dragonnade, c'est la dragonnade décisive. Elle s'étend à tout le royaume. Elle commence en Béarn dans l'été 1685, à l'initiative de Foucault, intendant du Béarn. 47 compagnies de dragons sont logées dans le pays. En août, ses troupes passent en Guyenne. En septembre, elles passent en Aunis et Saintonge. Le 4 octobre, elles sont à Nîmes. Et peu de temps après, en Dauphiné, laissant derrière elles des traînées de conversion massives. On a beaucoup parlé des sévices exercés par les soldats. Il y en a eu. Il y en a eu. En Poitou, en Béarn, à Montauban. Ma maison, écrit un notable de Montauban, un notable protestant, Samuel de Péchel, fut rempli de soldats et de chevaux d'officiers. Ces hommes s'emparèrent de toutes les chambres, avec si peu de réserve que je ne pus même pas en garder une seule pour ma famille. Il me fut également impossible de faire entendre à ces misérables que je leur offrais sans résistance tout ce que je possédais. Ils enfoncèrent toutes les portes, brisèrent les coffres et les armoires, préférant saccager mon bien de cette façon brutale que d'accepter les clés que ma femme et moi leur tendions. Je fus mis à la porte avec ma femme, qui était sur le point d'accoucher, et quatre petits-enfants, et nous n'eûmes le droit de rien emporter sauf un berceau et quelques langes pour l'enfant qui allait naître. La rue étant pleine de gens qui se réjouissaient de nous voir ainsi pillés, nous ne pûmes d'un moment avancer plus loin que la porte, et les soldats s'amusaient à vider sur nous par les fenêtres des cruches d'eau, comme pour mieux se divertir de notre douloureuse situation. Ce témoignage donne, semble-t-il, assez bien la moyenne des exactions. On pille, on injurie, on rend la vie impossible, on jette dehors. Il y a pire, mais rarement. Il y a aussi moins violent. Par exemple, chez Jean Giraud, un notable protestant lyonnais, qui doit loger deux officiers de dragons. Et ces officiers restent quelques jours, et pendant le séjour, eh bien, de temps en temps, ils apostrophaient véhémentement leur propriétaire, enfin leur logeur, en le priant vivement de se convertir. J'eus un capitaine et un lieutenant qui me pressèrent très souvent et très fort sur ma religion. Quelquefois, les soldats peuvent se contenter de paraître, et immédiatement, tout le monde se convertit. C'est C'est tout de suite. Il suffit que les soldats se montrent à l'entrée du village ou du bourg. Immédiatement, tout le monde se convertit. C'est ce qui se passe en Béarn, au bourg de Pardy. Le bourg de Pardy, écrit l'auteur d'une relation contemporaine, avait plus de 80 familles de la religion prétendue réformée. Il a changé entièrement en 2 jours que 2 compagnies d'infanterie y sont demeurées. Et il n'y reste présentement qu'un seul homme de la dite religion. Toute sa famille s'est en fait catholique. Et l'on doit à la sage conduite du sieur de la Galinière, qui commande ses 2 compagnies, et aux soins du sieur de Bonval, commissaire des guerres, une partie de ce bon résultat. Et quelquefois, il suffit même d'annoncer, de dire, on va vous envoyer les dragons. Immédiatement, tout le monde se convertit. C'est ce qui s'est passé à Lyon, où la simple annonce de l'arrivée des troupes a entraîné une délibération, et au terme de laquelle tous les protestants lyonnais se sont convertis collectivement d'un seul coup. En octobre 1685, c'est le 16 octobre 1685 que la cour de Versailles a pris cette bonne nouvelle de la conversion des Lyonnais. Conversion en masse, donc, presque partout. À l'annonce de l'arrivée des dragons, ou après le passage, pendant quelques jours, des soldats. C'est très spectaculaire. À Pau, il y a 3000 protestants. En 3 jours, c'est fait. À Montauban, en 6 jours, on assiste à l'abjuration de 17 000 protestants. 17 000. D'ailleurs, pour les 9 000 protestants de la ville de Montauban, cela s'est passé d'une manière collective. Je lis dans une relation du temps qu'après l'arrivée des troupes, le lendemain, il fut conclu par délibération que l'on rentrerait dans l'église romaine. Les protestants, je cite encore, allèrent sur l'heure, encore chez M. l'intendant, et de là chez M. de Montauban, c'est l'évêque, qui leur donna l'absolution, et les conduisit à l'église au son des cloches, et l'on chanta le Te Deum. Écoutez, c'est fantastique quand même ça. Ils abjurent tous ensemble, ils vont chez l'évêque, et l'évêque leur dit, mes amis, maintenant nous allons fêter ça. Et monte à la cathédrale. On monte à la cathédrale parce que c'était la nouvelle cathédrale qui venait d'être construite. Elle se trouvait à 150 mètres, un peu au-dessus du palais épiscopal. Il n'y avait pas beaucoup de chemin à faire. Peut-être ça valait mieux d'ailleurs, parce qu'en route, il en serait peut-être parti quelques-uns qui auraient quitté la procession. Donc, acte spectaculaire. Et évidemment, qu'est-ce que vous voulez? Il y en a qui crient au miracle. Bossuet, par exemple. C'est enthousiasmé. Il a dit qu'on n'avait jamais vu une chose pareille dans l'histoire de l'Église, qu'une hérésie, voir ainsi une hérésie tomber en quelques jours, c'est un phénomène unique dans les annales de l'Église. C'est un acte merveilleux. Il faut en remercier la Providence. D'autres se frottaient les yeux et se demandaient si on n'avait jamais vu des gens appelés protestants. Est-ce qu'il en avait existé quelque part ? Tout le monde croyait ou faisait semblant de croire à la réalité de ces conversions massives. On aurait quand même pu se dire une chose. Ils ne sont pas très attachés à leur religion puisqu'ils se convertissent très vite. C'est vrai, écoutez, moi j'ai quand même cette réaction, je ne sais pas si vous l'avez. Enfin, de voir comme ça 17 000 personnes abjurant en 7 jours, sans persécution aucune, enfin sans persécution. Je veux dire, sans emprisonnement, sans violence physique, c'est quand même un peu extraordinaire. Alors on peut se dire, ils ne sont pas très attachés à leur religion. Et c'est probablement ce que le roi s'est dit. Il s'est dit, ces gens-là, écoutez, quand même, c'est pas la peine de leur conserver cet édit de Nantes, puisqu'ils sont si peu protestants. Seulement, c'est pas parce qu'ils s'en vont, ils quittent leur religion si facilement, qu'ils vont s'attacher pour autant et se convertir. Vraiment. C'est pas parce qu'ils abjurent en masse leur religion qu'ils s'attachent pour autant à l'Église romaine. Ce ne sont pas de vraies conversions, et ça, on aurait quand même pu le voir. Et certains d'ailleurs l'ont vu, Madame de Maintenon, mais ils ne sont pas nombreux. La plupart des abjurations collectives sont des faux-semblants. Et la grande masse de ces catholiques de la dernière heure ne sont pas plus catholiques ni romains qu'ils l'étaient avant leur abjuration. Et on va s'en apercevoir tout de suite. Ah, mais tout de suite. Et qui va s'en apercevoir? Eh bien, les missionnaires qu'on va envoyer tout de suite pour achever le travail. Les missionnaires qu'on envoie aux néophytes pour leur enseigner leur nouvelle religion. Alors là, le ton change. On avait eu des communiqués triomphants. Ils se convertissent tous, c'est magnifique. Et puis maintenant, ce sont des rapports consternants. Les nouveaux convertis, c'est ainsi qu'on les nomme, refusent de faire leur Pâques, c'est dans une de ces lettres, dans tous les esprits, un attachement incroyable à l'hérésie. Un attachement incroyable à l'hérésie. Des gens qui viennent de se convertir en masse. En Languedoc, même désillusion. Les curés se lamentent. Leurs nouvelles ouailles boudent l'église, elles ne veulent pas venir, elles refusent les sacrements. 10% à peine remplissent le devoir pascal. Et les années passent, et rien ne change. Ils restent chez eux, ils ne viennent pas. Et dans les missions, vers 1720, on fera chanter ce cantique, prière pour les nouveaux convertis. Mon Dieu, vous voyez leur aveuglement sur le plus grand de nos mystères, l'Eucharistie. Ils contredisent sottement vos paroles qui sont si claires. Sans vos bontés, ô doux Jésus, ils sont damnés, ils sont perdus. Et les évêques n'ont pas le moral. L'évêque de Rodez, 1731, 46 ans après la révocation, les nouveaux convertis ne paraissent jamais dans nos églises. 1731. Alors il y a aussi des choses plus inquiétantes. Il y a les convertis qui reviennent au protestantisme. Il y a ceux qui font semblant d'être des vrais convertis pour pouvoir se marier, et ainsi de suite. En somme, les nouveaux convertis ne le sont pas, et ne l'ont pas été pendant longtemps. En invoquant leur conversion, Louis XIV avançait une fausse raison, et le fait qu'il était de bonne foi n'y changeait rien. Sa décision de révoquer s'appuie sur un faux semblant, sur un motif non fondé, et cela suffit à la rendre vicieuse. Nous devons quand même la considérer d'un autre point de vue, du point de vue de son utilité. Je veux dire, la révocation a-t-elle fait finalement progresser le catholicisme? Il y avait 800 000 protestants dans le royaume en 1670. En 1789, il n'y en a plus que 500 000. Alors c'est un gain pour le catholicisme, sans aucun doute. Et puis, il faut quand même dire qu'à la fin de l'Ancien Régime, un certain nombre de régions anciennement protestantes ont fini quand même par se convertir. C'est le cas du pays de Montauban. Le Montalbanais a été longtemps réticent, les nouveaux convertis ont été très durs, et puis à partir de 1750-1760, ils ont commencé à aller à l'église. Donc, on peut dire que le catholicisme a progressé dans certaines régions et que l'unité religieuse du royaume a été renforcée. Seulement, il faut le dire, la révocation n'y est pas pour grand-chose. La révocation et la persécution n'ont fait que de faux convertis. Ce sont les missionnaires et ce sont les curés de paroisse qui ont réalisé les véritables conversions. Alors pourquoi la révocation? À quoi a-t-elle servi? Est-ce qu'on n'aurait pas pu en faire l'économie? C'est la question qu'on peut toujours poser. Sans doute, mais il faut quand même observer que sans la révocation, l'Église n'aurait jamais entrepris ce grand effort missionnaire. La révocation a placé en somme les évêques et les ordres religieux devant le fait accompli. C'est comme si on leur avait dit, voilà des catholiques de nom, à vous d'en faire de vrais catholiques. Alors on s'est mobilisé, grand remue-ménage. L'archevêque de Paris envoie 800 prédicateurs dans les provinces. 600 jésuites sont délégués par la compagnie. Des milliers de capucins. Alors, il y en a beaucoup des capucins, il faut dire. Il y en a 10 000 en France. Alors, on avait de la ressource, donc on a envoyé des milliers de capucins dans les régions à convertir. On a imprimé des centaines de milliers de livres de messes. Alors, les protestants ne voulait pas de latin. Alors on a composé, on a négocié, on leur a dit, on va vous mettre des traductions françaises. Alors, il n'y en avait pas jusqu'à cette époque. Alors on a fait des livres de messe avec le latin gauche et le français à droite. Ils voulaient continuer à lire le Nouveau et l'Ancien Testament. Alors, on leur a fait des traductions surveillées par les évêques, des traductions contrôlées, et on a diffusé en 1687 500 000 exemplaires du Nouveau Testament en français. Oh. Ça, c'est un bienfait, c'est un des bienfaits de la révocation, on peut le dire. La multiplication des livres de prière et de méditation. Au XVIIIe siècle, les catholiques français, les nouveaux convertis, mais aussi les autres, suivront la messe dans leurs livres de messe, feront des lectures de la Sainte Écriture, et même les plus simples gens, ils se nourriront de la prière des psaumes, et cela, ils ne devront pour une bonne part la révocation. Sans la révocation, le clergé aurait sans doute conservé son ancienne défiance vis-à-vis des traductions françaises, de la Bible et des textes liturgiques. Défiance justifié au temps où les seuls traducteurs étaient des hérétiques, mais qui ne l'étaient plus. Et puis, j'ajoute ceci, selon certaines sources, mais là je n'ai pas de données très certaines, la révocation aurait rendu à l'Église un autre service appréciable, celui de couper court à des négociations œcuméniques, fort dangereuses. Il semble bien, en effet, que pendant l'été 1685, des conversations s'étaient engagées entre l'épiscopat et les églises protestantes et qu'elles étaient sur le point d'aboutir à un compromis de nature à blesser la foi catholique. Bon, je n'insiste pas, je pourrais développer ce point éventuellement. Vous me direz, c'est étonnant. Mais non, ce n'est pas du tout étonnant. Ces évêques français de 1685, j'allais dire, ils ne sont pas très catholiques. Ne sont-ils pas ceux qui professent le gallicanisme le plus intransigeant, qui soutiennent la supériorité du concile sur le pape, qui depuis 1660, par des réformes liturgiques aventureuses, par la publication de missels, de bréviaires et de rituels gallicans, sont en train de rompre l'union de prière avec l'Église romaine? Si donc la révocation à empêcher ces évêques de traiter, entre guillemets, avec les protestants, c'est là, à n'en pas douter, un autre de ces heureux effets. Malgré tout, et à bien regarder, je pense, les inconvénients de l'édit de Fontainebleau l'emportent sur ses avantages. Les inconvénients pour l'Église catholique, d'abord. Eh oui, la persécution et la clandestinité ont abouti à un véritable réveil du protestantisme français. À cause de la persécution, on estime à 10 000 le nombre des protestants poursuivis et condamnés par la justice royale au XVIIIe siècle. Les plus durement frappés sont les condamnés aux galères, une quarantaine par an. Et ceux que l'on enferme à vie dans des prisons insalubres, dans la tour de Constance à Aigues-Mortes, des femmes ont été emprisonnées pendant les deux tiers de leur vie. Comme cette sœur d'un pasteur, condamnée à l'âge de 15 ans, en 1730, qui en sort seulement 38 ans après. Oui, cette persécution était bénéfique au protestantisme. Et on a vu naître ce qu'on a appelé le protestantisme du désert, succédant au protestantisme de l'établissement. Or, ce protestantisme du désert est un calvinisme dur et pur, alors que le protestantisme de l'établissement était engourdi. Les pasteurs, avant l'édit de la révocation, étaient devenus des sortes de bourgeois, de donneurs de sermons. Ce nouveau protestantisme est un protestantisme qui va donner du fil à retordre à l'Église catholique. Si les auteurs de la révocation pensaient détruire le protestantisme, il est plus qu'évident qu'ils ont manqué leur but et qu'ils sont même arrivés à un résultat contraire. S'ils voulaient au moins l'affaiblir, ils l'ont au contraire fortifié. Ce n'est pas le protestantisme qui est affaibli, c'est le catholicisme. Par la présence dans son sein de faux convertis, de faux catholiques, méchants fidèles, qui persistent malgré toutes les pressions à ne pas assister à la messe, à ne pas faire leur Pâques, à ne faire semblant de pratiquer que pour pouvoir se marier. Ils font scandale. Parce que même s'ils demeurent religieux au fond d'eux-mêmes, ils donnent l'exemple de l'indifférence en matière de religion. Dans quelle mesure ce mauvais exemple a-t-il été imité par les anciens catholiques? Je ne sais pas si on peut répondre à une telle question, mais il faut au moins la poser. La mauvaise pratique des nouveaux convertis a été très probablement l'un des facteurs les moins négligeables de la première déchristianisation de la France au XVIIIe siècle. Alors je pense, enfin on ne doit pas refaire l'histoire, on ne peut pas se mettre à la place de Louis XIV et de ses ministres, mais je pense que s'il fallait absolument réduire le nombre des protestants, il valait peut-être mieux bannir les huguenots du royaume, ou bien alors faire confiance à l'apostolat et attendre patiemment que les protestants se convertissent. D'ailleurs, une telle attente n'aurait pas été vaine. Depuis le début du XVIIe siècle, de nombreux protestants chaque année se convertissaient librement à la foi catholique. Certaines conversions illustres, celle de Turenne en 1668, du prince de Tarente en 1670, de mademoiselle de Duras en 1678, avaient eu un grand effet d'entraînement. Elles avaient été longuement préparées et méditées. Alors bien sûr, il y avait des conversions intéressées. Le pouvoir royal donnait des charges, des bénéfices aux convertis. Ah oui, qu'est-ce que vous voulez, on ne prend pas les mouches avec du vinaigre. Il y avait même une caisse des conversions fondée par l'épiscopat et gérée par un ancien pasteur converti qui s'appelait Pélisson. Alors, ça permettait de donner de l'argent aux protestants convertis qui se trouvaient de ce fait abandonnés par leur milieu et qu'il fallait aider un certain temps. Bon, mais ça n'empêchait pas la sincérité de beaucoup d'abjurations. Il y avait dans ces abjurations beaucoup de véritables conversions. Et même Madame Elisabeth Labrousse, qui est pourtant une très favorable aux protestants et qui condamne Louis XIV très fortement, même Elisabeth Labrousse pense que beaucoup de ses abjurations étaient sincères. Toutefois, plus que pour l'Église, c'est le royaume, plus que l'Église, c'est le royaume, c'est la France qui souffre de la révocation. D'abord par l'émigration que celle-ci provoque. Car beaucoup de protestants réussissent à sortir, malgré la garde aux frontières, malgré l'interdiction. Combien ? L'historien Lavis avançait le chiffre d'un million de départs. Oh non, non, on en a beaucoup rabattu. Ça, c'était les exagérations républicaines. Aujourd'hui, la plupart des historiens se rallient au chiffre de 200 000, considéré comme un maximum. Il pourrait bien atteindre 200 000, écrit à propos de ce chiffre Madame Labrousse. On est revenu également des estimations plus raisonnables en ce qui concerne les conséquences économiques de ces départs. On avait écrit au XIXe siècle que la révocation avait entraîné le dépeuplement de certaines provinces du royaume. Non, c'est excessif, c'est excessif. Cependant, l'effet néfaste de l'émigration n'est pas négligeable. Les chiffres ne disent pas tout. La qualité des émigrés compte plus que leur quantité. La France a perdu des artisans de qualité, des marins, des soldats, des professeurs. De l'argent aussi. Par exemple, beaucoup de négociants lyonnais sont partis avec leur argent. L'un d'eux est parti avec 600 000 livres en Hollande. Vous savez aussi que la puissance militaire de la Prusse doit beaucoup aux officiers français émigrés qui appartenaient à la religion protestante. À ses frères ennemis de l'extérieur, ces Français qui vont maintenant combattre la France dans les coalitions contre Louis XIV vont bientôt s'ajouter ceux que la révolte contre une injuste persécution suscitera à l'intérieur du royaume. Je veux parler des Camisards, de cette révolte des Camisards qui a obligé le pouvoir à envoyer de véritables armées dans les Cévennes. Et l'une de ces armées même a été battue en 1703. Les Camisards ont failli prendre Nîmes. Par l'édit de Fontainebleau, on peut dire que la monarchie française s'est aliénée un bon nombre de ses sujets protestants et qu'elle s'est portée ainsi à elle-même un tort irréparable. Alors la question se pose, pour finir, de la responsabilité. Qui est responsable? La révocation, a écrit un historien en 1985, l'abbé Armogat, La révocation a été l'affaire des laïcs. C'est pas faux. C'est pas faux, mais c'est pas tout à fait vrai. Bien sûr, la décision a été prise par Louis XIV et par ses ministres. Mais les évêques y ont poussé. Depuis 30 ans, les assemblées du clergé de France réclamaient au roi la réduction, comme elles disaient, des protestants. Elles ne demandaient pas expressément la révocation, mais elles voulaient que l'édit soit rétréci, expression que les évêques emploient. Que si votre autorité, écrit l'assemblée de 1651 parlant au roi, ne peut étouffer l'édit d'un coup, elle le rendit languissant et le fit périr peu à peu par le retranchement et la diminution de ses forces. En 1675, les évêques demandent carrément l'extirpation entière de l'hérésie. Il est vrai que Louis XIV n'avait pas besoin de beaucoup d'encouragement. Et nous avons vu tout à l'heure que dès 1661, il était décidé lui aussi à réduire les protestants. Quant à la décision même de révoquer, ce serait bien mal connaître le roi que de croire qu'il se la laissa dicter par quiconque. Les historiens romantiques, Michelet, entre autres, ont accusé Madame de Maintenon et le père de la chaise, jésuite confesseur du roi, d'avoir fait pression sur Louis XIV. Non, la critique historique a fait justice de ces allégations qui ne reposent sur rien. D'ailleurs, nous l'avons vu, le roi était obligé de révoquer, il ne pouvait plus faire autrement. Mais alors pourquoi le fait-il précisément? Ça c'est la question peut-être plus importante. Pourquoi le fait-il précisément dans ce mois d'octobre 1685? Comme il ne s'est jamais expliqué à ce sujet, nous sommes obligés de faire des suppositions. Alors certains historiens ont avancé cette thèse, le roi voulait expier l'adultère. Il avait été pêcheur et pêcheur public pendant de longues années. C'est assez vraisemblable. C'est assez vraisemblable qu'il ait voulu, par un acte, très favorable à l'Église, expier en quelque sorte son péché public. Oui, mais on n'a aucune preuve de cette hypothèse. Enfin, rien ne permet de la vérifier. Ce que nous savons, c'est que Marie-Thérèse, la reine, est morte en 1683, que Louis XIV s'est remarié morganatiquement, c'est-à-dire secrètement avec Madame de Maintenon, dans les mois qui ont suivi la mort de la reine. Et puis c'est tout. Mais le roi n'a jamais dit, ou laissé entendre, qu'il révoquait pour expier son péché public. Par contre, ce qui est plus probable, c'est un calcul politique. Nous sommes en pleine crise gallicane. Les relations avec le pape sont très tendues, avec Innocent XI. Il faut dire qu'Innocent XI, c'est pas un caractère très agréable, très difficile, très susceptible. Vous savez, on dit toujours que les papes aiment la France, mais non, c'est pas vrai. Ce n'est pas vrai du tout. Les papes qui ont aimé la France sont très peu nombreux. Je crois que dans l'histoire contemporaine, on aurait difficulté à en trouver un seul. En tout cas, Innocent XI ne l'aimait pas. Il n'aimait pas la France, il n'aimait pas les Français, et il n'aimait surtout pas le roi de France. Alors il est très mécontent, et il a raison, de la déclaration des quatre articles de 1682 votée par l'Assemblée du clergé de France. C'est une déclaration très gallicane. Le concile est supérieur au pape, dit cette déclaration. Alors le pape utilise un moyen de rétorsion. Il refuse de donner l'institution canonique aux évêques nommés par le roi. Donc un tiers des évêchés français se retrouve sans évêque. Bon. Alors, Louis XIV a peut-être voulu amadouer le pape. Il est tentant, écrit le père Blais, historien des relations entre la France et le pape, il est tentant de voir dans l'édit de Fontainebleau un geste de Louis XIV destiné à impressionner la cour de Rome et à contraindre Innocent XI à régler à l'amiable les conflits qu'il opposait alors au roi très chrétien. Oui, c'est tentant, l'hypothèse est séduisante, mais alors il faut admettre que si elle est juste, le calcul du roi n'est pas bon. Car le pape n'est pas du tout content de l'édit de Nantes. Il a même des paroles très dures contre Louis XIV. « Ce roi, dit-il, cherche bien plus les avantages de son royaume que ceux du royaume de Dieu. Il a chassé les protestants, mais nullement par un zèle de religion. Il attend 5 mois, le pape, pour adresser au roi les félicitations qui s'imposent. Et 6 mois pour faire célébrer un Tédéum, et un petit Tédéum dans une petite église de Rome. Enfin, c'est pas très... Et Louis XIV avait écrit ceci. « Nous ne voulons qu'une seule religion dans notre royaume. Le roi, réplique Innocent XI, n'aurait jamais dû parler ainsi. Les princes hérétiques n'en veulent pareillement qu'une dans leurs états. Mais le roi de France aurait dû dire « Je ne veux que celle qui est la seule véritable. » Et oui. Propos éclairant. Non seulement Rome n'a pas poussé à la révocation, mais encore elle l'a désapprouvée. La responsabilité de Louis XIV n'en apparaît que plus grande. La responsabilité de Louis XIV est celle de ses ministres, surtout le clan Letellier. Michel Letellier, son fils Louvois, enfin la famille Letellier, les Colbert étaient plus réticents. Mais enfin, ce sont des divergences de détails. En fait, sur l'essentiel, tous les ministres de Louis XIV étaient d'accord. Et qu'est-ce que c'était que l'essentiel pour eux? C'était la suppression du protestantisme en France, à régler par l'État, pour l'avantage de l'État. Et je crois que nous touchons ici aux raisons profondes. Si la révocation a eu lieu, c'est parce que les hommes au pouvoir, dans l'État comme dans l'Église, oui, c'est très important de savoir quelle est la philosophie des hommes au pouvoir. On dit ils sont méchants, ils sont affreux, ce sont des crapules. On dit ça à toutes les époques, on le dit aujourd'hui, c'est d'ailleurs bien souvent, sont des propos qu'on peut tenir. Hein. On dit ils sont des crapules, des sacripants, des ceci, des cela, oui, bien sûr. Mais il serait plus intéressant de savoir quelle est leur conception du monde. Parce que finalement, il y a une philosophie dominante à toutes les époques dans le personnel politique. Et il est intéressant pour comprendre la révocation de voir quelle était la conception du monde du personnel politique de Louis XIV et de Louis XIV lui-même. D'abord, au sujet du protestantisme, ils ont des idées fort simplistes. Ils réduisent le protestantisme à un schisme, oubliant qu'il s'agit d'abord d'une hérésie. Et oui, oubliant qu'il s'agit d'une hérésie. Ils pensent que si on réunit les protestants, il n'y aura plus de problème. Coupez le schisme, dit l'archevêque de Paris, Arlet, et l'hérésie séchera toute seule. C'est tout simple. Vous n'avez qu'à les rattacher, et puis il n'y aura plus de problème. Fermons les temples, dit un autre, et les protestants n'auront d'autre solution que d'aller à la messe. Et voilà, et c'est tout simple. En somme, en révoquant l'édit, on supprimera la croyance. Car la croyance, pensent-ils tous, n'est qu'une habitude. Changeons les habitudes des protestants, habituons-les à être catholiques, et c'est tout simple, et ils seront catholiques. C'est ce que dit Fénelon, du fond de la Saintonge, il s'agit bien moins du fond des controverses que de l'habitude dans laquelle les peuples ont vieilli de suivre extérieurement un certain culte et de la confiance qu'ils ont dans leurs ministres. Il faut transplanter insensiblement cette confiance et cette habitude chez les pasteurs catholiques, et par là les esprits se changeront presque sans s'en apercevoir. Telle est la thèse officielle, parfaitement exprimée. Alors qu'est-ce que c'est que cette méthode-là? Ben, nous la reconnaissons bien. C'est la méthode du pari de Pascal. L'épreuve, disait l'auteur des pensées, ne convainc que l'esprit. La coutume fait nos preuves plus crues et plus fortes. La coutume incline l'automate qui incline l'esprit sans qu'il y pense. Fénelon, dans la lettre que je viens de vous lire, ne dit rien d'autre. L'idée est la même, et les mots diffèrent à peine. On croirait que Pascal a écrit pour Fénelon. Pascal est donc ici en cause, certainement. Mais alors peut-être la philosophie qu'on appelle le mécanisme l'est aussi. Car la conception du mécanisme de la nature humaine, c'est-à-dire l'idée selon laquelle l'homme est fait de deux pièces distinctes, l'automate et l'esprit, et selon laquelle encore il est impossible de convaincre l'esprit sans avoir au préalable réglé l'automate par la création de nouvelles habitudes, sans cette idée mécaniste, il n'y aurait jamais eu de pari pascalien. La politique religieuse de Louis XIV procède selon ce schéma. Elle transplante, d'abord, elle persuade ensuite. On les met dans l'église et puis après on les convertit. On les met dans l'église, enfin on les y pousse. Après, on les convertit. En somme, la politique de Louis XIV règle l'automate. Elle fabrique des nouveaux convertis artificiels qui ne vont à la messe que parce qu'on les a réglés pour ça. On remonte la clé, et puis quand ils ne veulent pas y aller, on remonte un peu plus, ils y vont. Ensuite, on se préoccupe de leur esprit. La politique de la révocation, c'est une étrange manière de faire, surprenante chez un homme de bon sens comme Louis XIV. Mais on l'explique parfaitement si on rapporte cette politique à la philosophie qui probablement l'inspira. Car le mécanisme est, avec le cartésianisme, la philosophie de Descartes, la philosophie dominante du siècle. Celle qui, depuis 1660, a conquis les salons, les académies, le monde administratif et le monde politique, et qui imprègne, de même que le marxisme et le structuralisme aujourd'hui, la manière de penser des hommes au pouvoir. La logique de ces hommes, c'est donc celle du pari, et c'est pourquoi il leur paraît tout naturel de faire passer le dragon avant le missionnaire, ou le missionnaire après le dragon. Le dragon d'abord pour l'automate, et le missionnaire ensuite pour l'esprit. Une telle façon de concevoir le gouvernement, je vous assure que c'est une façon tout à fait révolutionnaire et nouvelle. C'était pas celle de Richelieu, en tout cas. C'était pas celle de Louis XIII. Richelieu n'aurait jamais imaginé de pareils procédés. Ah, il combattait la révolte protestante, et il la combattait en personne. Il était lui-même au camp de La Rochelle. Il couchait tout botté dans sa tente. Et puis le soir, tout botté aussi, il écrivait un traité de controverse. Mais pour la conversion des protestants, il ne voulait compter que sur la douceur, il l'a répété bien des fois. Il ne voulait que s'adresser à la raison, il l'a dit aussi. Je veux retirer les hérétiques de leur hérésie par la raison, pendant que le roi les retire de la rébellion par la force. Il écrit cela dans son traité de controverse. Car il était le tenant d'une autre philosophie, qui était celle de saint Thomas d'Aquin. Je puis dire qu'entre Richelieu et Louis XIV, il y a tout l'espace d'une révolution philosophique. Et cependant, le système de la révocation ne se réduit peut-être pas à une conception de la nature humaine. L'étatisme aussi est un élément essentiel. Pour Louis XIV et pour ses ministres, l'État est appelé à tenir dans la vie du royaume une place de plus en plus grande. Et son intervention dans les affaires religieuses ne doit pas se restreindre à la protection de l'Église, mais au contrôle permanent des affaires religieuses. Et nous le voyons pendant tout le règne de Louis XIV. Louis XIV est une sorte de contrôleur permanent des affaires religieuses. L'étatisme d'ailleurs s'accorde parfaitement avec la philosophie mécaniste. Car la philosophie mécaniste légitime une contrainte que seul l'État peut exercer. Ainsi, je pense, que nous trouvons aux origines de la révocation ces deux perversions de l'esprit moderne. Nous les trouvons associées. Et Edith Fontainebleau nous apparaît, en fin d'analyse, plus comme une contre-vérité que comme une faute. Je vous remercie de votre attention. De condamnation aux galères, une quarantaine par an, pendant tout le XVIIIe siècle, jusqu'à la révocation de la révocation, n'est-ce pas, jusqu'en 1787, puisque c'est Louis XVI qui a rendu un état civil aux protestants. Il n'y a pas eu de nouvelle liberté du culte, mais il y a eu quand même, en 1787, un édit libéralisant le régime. Oui, une quarantaine de condamnations aux galères. Et c'est quand même... c'est une des grandes duretés du règne de Louis XV. Il faut quand même le voir. C'est-à-dire des gens qui voulaient quitter la France, quoi, les protestants. Une des grandes injustices. Et d'ailleurs, les protestants vont se venger, vous comprenez. Et il faut bien dire que... On sait que dans la commission qui a fabriqué la constitution civile du clergé pendant sous la constituante, il y a un certain nombre de protestants. Et ces protestants n'étaient pas, évidemment, très bien disposés envers l'Église, ni envers la monarchie. Oh, ça dépend duquel. Il y a eu Marillac. Non, 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 attention. Il y a eu Marillac. Marillac, des plaintes ont été faites après la première dragonnade, c'est-à-dire en 1681. Et à ce moment-là, on a interrompu pendant 2 ans à cause des plaintes contre les violences qui avaient été faites. Mais pour ce qui est des suivantes, le Conseil du Roi, c'était le Conseil du Roi qui prenait les décisions. Et le Conseil du Roi, c'est le roi. À propos de... Oui, à propos des délibérations souhaitables à Lyon. Oui, le 7 octobre 1685, Louvois écrit à Camille de Neuville, intendant de Lyon, donc préfet de Lyon, si vous voulez. « Sa Majesté aurait fort agréable que vous puissiez porter la plus grande partie des religionnaires de la ville de Lyon à se convertir par délibération. Mais si cela ne peut réussir, Sa Majesté sera bien aise auparavant de vous donner ses ordres pour vous servir de troupes pour les y contraindre, d'avoir un mémoire du nombre des religionnaires qu'il y a dans la ville de Lyon. » Louis XIV suit ses affaires de très très près. Vous savez, ce n'est pas un roi qui plane, hein. Heure par heure. Et dans les jours qui précèdent et qui suivent immédiatement la révocation, le roi se fait tenir au courant par Seignelay 4 ou 5 fois par jour. Hein. Donc, il... Pardon ? Ah oh, ben évidemment, évidemment, ben évidemment. Enfin, la politique d'ensemble, la politique de, comment dirais-je, de persécution, oui, il faut bien l'appeler par son nom, c'est une politique que le roi, à laquelle le roi consent. Non seulement la consent, mais on peut même se demander si ce n'est pas lui qui la stimule.
Et pour ce qui est des réductions légitimes d'un prince, d'accorder...
Ah ben bien sûr, oui.
De faveur à ceux qui...
Mais bien sûr. Bien sûr. Non, mais là, tout à fait normal. Dans quel sens l'entendez-vous, monsieur l'abbé? Oui.
C'est quand même...
Oui, sans doute. Sans doute, non. Non, non, bien sûr, il y a une politique. Il y a une politique du roi qui est une politique pour aller vite. Parce qu'il constate que... Oui, c'est ça. Une politique pour aller vite, sur lequel on peut porter un jugement... parce que tout historien peut porter un jugement moral, on a le droit. On peut se dire qu'après tout, la réunion n'allait pas très vite, le roi s'est dit, bon, à la rigueur, on peut trouver ça normal, comme vous dites, hein, c'est certain. Mais enfin, ce n'est pas ce qu'aurait fait Richelieu Louis XIII. Hein. Mais, monsieur l'abbé, ça vous êtes tout à fait libre de le penser. Moi, je ne prétends pas vous imposer une manière de penser. Je ne suis pas Louis XIV. Simplement, je crois quand même que la voie traditionnelle, celle qui avait été suivie jusqu'alors par Henri IV, d'abord, Louis XIII et Richelieu, était peut-être plus conforme à la tradition de l'Église et à la tradition de la monarchie française, surtout. Hein. Il est certain que pour l'unité religieuse du royaume, il était préférable qu'il n'y ait plus de protestants en France, c'est certain. Il est certain que la religion protestante représente une réduction très grave du christianisme et qu'il est difficile de tolérer très longtemps cette réduction. Mais enfin, les méthodes qui ont été employées semblent, et surtout la révocation, avoir été arbitraire dans bien des cas.